Alors, bonjour à tous, merci pour cette présentation. Donc, juste pour savoir, je suis effectivement belge, j'ai été enseignant pendant 10 ans au niveau du collège en Belgique, je travaille comme chercheur à l'université de Genève et j'habite en France, donc j'ai une fille qui aujourd'hui est en CM2 et qui a fait toute sa scolarité dans le système français, comme ça vous verrez un petit peu mon ancrage. Alors, à travers ce titre, pourquoi les enseignants croient dans les vertus du redoublement? Je vais essayer aussi de répondre, enfin de donner quelques éléments de réponse par rapport à la question qui était posée ce matin sous la formule lapidaire mais tellement efficace, pourquoi la mayonnaise n'a jamais su prendre, malgré la mise en place d'alternatives. Alors, je vais aller très vite sur cette première diapositive puisqu'elle a été présentée. On sait que dans de nombreux systèmes éducatifs, le redoublement reste en usage. Arlette l'a montré, et puis Olivier Labbé le montre aussi au niveau plus international encore. Avec l'adhésion des enseignants, ça on le retrouve dans une série d'études déjà anciennes, par exemple Gianre Topini le montrait déjà pour Genève dès 1991, et puis on voit aussi dans le rapport du CNESCO, quand on voit les adhésions des enseignants, mais aussi des parents et des élèves face au redoublement, ces fameuses enquêtes Opinion Way 2012, etc. Donc on voit bien qu'il y a une adhésion des enseignants, des parents et aussi des élèves à ce redoublement. Or, la littérature scientifique conclut à son inefficacité, voire à ses effets négatifs. Là aussi, on en a déjà parlé suffisamment. Et même si aujourd'hui les économistes de l'éducation relativisent les propos, en tout cas, ils montrent qu'il n'y a pas un effet bénéfique, massif, de faire redoubler les élèves. Ça, c'est un état de fait qui nous interpelle. Pourquoi les enseignants et les parents continuent à vouloir du redoublement alors que la littérature scientifique montre qu'il y a une inefficacité, au moins il n'y a pas d'effet à faire redoubler un élève, en tout cas sur le long terme, même si c'est vrai qu'on parle au niveau du secondaire un faible effet, mais en tout cas il est de faible ampleur. C'est cette question-là qui nous a amené dans un premier temps à faire une première étude en 2008 dans le canton de Genève, où on a interrogé des enseignants qui correspondent un peu à votre CM2, c'est-à-dire justement cette transition où il va falloir passer au collège, décider de savoir dans quelle orientation vont aller les élèves, puisqu'en dans le canton de Genève, dès le CM2, enfin dès qu'on arrive à la première du collège, on est orienté dans une filière A, B ou C en fonction de vos résultats. Eh bien, on s'est dit, tiens, on va aller interroger les enseignants, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de choisir deux élèves qui sont sensiblement les mêmes, mais dans un cas, ils ont décidé de le faire redoubler, et dans l'autre cas, ils ont décidé de le faire passer. Et à partir de là, on va essayer de comprendre quel est le processus de décision de ces enseignants pour faire redoubler. Donc la première chose que l'on a pu relever dans cette étude, c'est de dire que finalement, on a un processus évaluatif dans lequel les notes ne sont que partiellement déterminantes. Évidemment, quand on dit partiellement déterminante, c'est-à-dire que si l'élève n'a que des échecs, en quelque sorte, dans les disciplines, eh bien là, la décision est radicalement prise, s'il n'a que des réussites aussi. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de dire, tiens, et les élèves qui ont des notes tendancielles, comment ça se passe? Et là, on voit que quand les notes sont tendancielles, eh bien, évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce que l'on voit, c'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les notes ne sont plus là, en fait, pour, quelque part, décider du redoublement, mais elles fonctionnent plutôt, soit comme la validation d'un jugement psychologique de l'enseignant sur l'élève, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, ce ne sont plus les notes qui décident du redoublement ou pas, mais c'est la conception que l'enseignant va construire de l'état psychologique de l'enfant et de sa famille. Je vais y revenir juste après. Donc, finalement, les notes vont, en quelque sorte, venir valider ces conceptions qu'ils se sont faites sur l'élève. Et puis aussi, et là c'est quand même important, et ce n'est pas uniquement dans le canton de Genève, on retrouve ça dans d'autres pays, mais les notes peuvent aussi être des outils stratégiques et ou communicationnels à l'égard des élèves et des parents. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui disent, alors qui avouent, on pourrait dire, qu'à certains moments, entre un 4,5 sur 10 et un 5 sur 10, eh bien, en fonction du message que l'on veut faire passer, c'est-à-dire de la décision qu'on va prendre, eh bien, comme la note n'est pas en elle-même objective, eh bien, ils vont mettre 4,5 parce qu'ils veulent un redoublement, ou ils vont mettre 5 parce qu'ils veulent une promotion de l'élève. Donc, on voit dans cette première recherche, dans un canton de Genève qui n'est pas un canton spécialement... qui est un des cantons suisses où il y a du redoublement, mais par rapport à la moyenne européenne, la Suisse est quand même un canton où il y a peu de redoublement dans l'enseignement primaire, on voit malgré tout qu'il y a cette possibilité chez les enseignants de moduler leurs notes en fonction de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas concernant la décision du redoublement. Alors, c'est un processus évaluatif qui, en plus de ça, implique des jugements normatifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je l'ai dit, l'enfant, à partir du moment où on a des enfants qui sont à la limite de la réussite, les notes scolaires viennent au second plan, et ce qui apparaît, c'est plutôt un regard à travers un prisme, au moins sur deux facteurs. Le premier, c'est, chez les enseignants, c'est l'idée du métier d'élève tel qu'il est idéalisé pour l'institution scolaire. Il vaut mieux être un enfant qui correspond à ce que l'enseignant imagine qu'il faut être, comme être pour être un bon élève, pour pouvoir réussir. Deuxième chose, c'est aussi l'environnement familial. Et là, c'est assez intéressant de constater que, ben, dans ce cadre-là, on a aussi une représentation normative en tant qu'enseignant de ce que l'on imagine être la bonne famille pour être promu ou la mauvaise famille pour redoubler. Et là, en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on retrouve, entre autres, dans le rapport du CNESCO, lorsqu'on dit que, en fait, on a plus de chances de redoubler son année quand on est issu d'une famille monoparentale que quand on est issu d'une famille avec les deux parents. Alors, ce qui nous a encore plus intéressé de montrer dans cet aspect-là, c'est que si vous prenez ces questions familiales, par exemple, prenons un élève dont les parents viennent de divorcer cette année. Et qu'on interroge les enseignants sur, finalement, quelles décisions ils prennent. Eh bien là, on constate que pour une même variable, le divorce des parents, on peut avoir soit des raisonnements de compensation ou de cumulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on a des enseignants qui vont nous dire « Cet élève a divorcé, il a déjà subi le divorce des parents, et donc, quelque part, en fait, je ne vais pas en plus le faire doubler. » Donc, je compense son problème familial par une réussite scolaire. Mais on va avoir l'inverse. On va avoir des enseignants qui vont nous tenir le discours radicalement opposé et de nous dire, cet enfant, il a déjà des difficultés. En plus de ça, il a eu ses parents qui ont divorcé. Eh bien, le faire recommencer son année, c'est lui donner une bouteille d'oxygène, c'est lui donner un petit peu d'air pour pouvoir se relancer. Et donc ça, évidemment, nous, ça nous a interpellés en tant que chercheurs, de se dire finalement, pour des enfants qui sont sensiblement les mêmes au niveau des résultats, par rapport à une variable telle que le divorce des parents, on peut dans un cas décider de son redoublement et dans l'autre cas, le justifier par une réussite. En plus de ça, en fait, s'il y a un processus évaluatif où les notes ne sont pas déterminantes et si... on a des jugements normatifs, on voit aussi qu'il y a des convictions pédagogiques des enseignants, c'est-à-dire qui vont influencer les décisions du redoublement. C'est-à-dire qu'on a, et ça c'est quelque chose qui est déjà ancien, qui était déjà repris dès les années 2000 du côté du Québec par Pouillot et Potvin, qui disait, voilà, en fait, les enseignants conservent une conception traditionnelle de l'école, c'est-à-dire une conception où les élèves sont regroupés par échelons, qui sont les années, constituant des barrières qui retiennent ceux qui n'atteignent pas les objectifs fixés. Donc on a une conception de l'école qui est en quelque sorte une forme d'escalier et à chaque fin d'année, on évalue celui qui peut passer à la marche suivante ou pas. C'est une forme de conception de l'apprentissage de l'enfant. Et puis on a d'autres conceptions qui sont par exemple... Des conceptions sur la séquentialité des apprentissages et leur nécessaire enchaînement. Mais là, et je reviendrai simplement sur quelque chose qui a été dit ce matin, on expliquait ce matin que, en fait, ben, finalement, l'élève redoublant, il progresse. On connaît tous des cas d'élèves qui ont redoublé et puis ils ont progressé l'année d'après. Et ben, je rappellerai simplement que déjà Smith, du côté anglo-saxon dans les années 90, expliquait ça en disant, voilà, les enseignants, ils ont... Finalement, ce qu'ils appellent un regard tronqué. Un regard tronqué dans quel sens ? Simplement le fait que l'enseignant, lui, ce qu'il voit, c'est l'élève redoublant l'année d'après, et c'est naturel. Il avait déjà fait son année, il l'a refait une deuxième fois, il constate un progrès. Mais ce que Smith dit, c'est que l'enseignant ne peut pas à la fois avoir ce point de vue de voir l'enfant qui a redoublé, et en même temps de pouvoir voir l'enfant, s'il n'avait pas redoublé, quel progrès il aurait fait. Donc autrement dit, cette différence entre ce qui est visible et puis ce qui aurait pu être visible, c'est ce que Smith appelle le regard tronqué. Ça renvoie déjà à une ancienne idée de Piaget, qui était sur le réalisme et l'objectivité. Piaget ne disait pas, disait à peu près la même chose sur cet aspect-là. C'est-à-dire que, simplement, on ne peut pas, on a du mal à se décentrer, à imaginer ce qui aurait pu être différent de la réalité. Alors, deuxième élément aussi, par rapport aux croyances, les conceptions maturationnistes des enseignants qui sont relevées dans cette étude de 2008 et les conceptions sur l'intelligence. Je reviendrai juste sur la maturation. On a beaucoup d'enseignants qui vont faire redoubler un élève en disant « oui, mais cet élève manque de maturité ». Et là aussi, quelque chose qui nous a fortement troublé dans cette étude, c'est l'influence que peuvent avoir des caractéristiques physiques de l'élève. C'est-à-dire que si on prend un élève qui va être grand en taille, par rapport à un élève qui est petit en taille, qui ont les mêmes résultats scolaires qui sont délicats, on va avoir des enseignants qui vont nous dire « ah, lui, il est petit, je peux le faire redoubler parce qu'il passera inaperçu dans la classe en dessous. » Par contre, elle, elle est grande, et si je la fais redoubler, eh bien, ça va se voir. Et donc, vous voyez là que l'on a quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui ne sont plus des éléments purement pédagogiques, qui sont carrément des caractéristiques de l'individu, qui viennent parasiter le choix ou la décision de redoublement. Donc, tout ça, ça nous a fortement troublés. Donc, nos premières conclusions étaient que, finalement, toute décision de redoublement est la résultante d'un processus évaluatif dans lequel les notes ne sont que partiellement déterminantes, impliquant des jugements normatifs et s'appuyant sur une théorie personnelle, ses convictions pédagogiques, au sens où la croyance au bienfait du redoublement s'intègre dans un réseau d'idées, convictions et représentations de l'enseignant. Dès lors, ce processus de décision va varier d'un enseignant à l'autre et diffère notamment sur la nature et le poids des variables prises en compte, c'est ce que j'ai montré. Et ce qui a été démontré, alors il y a Marcel Craye qui l'a fait, mais il y en a d'autres ici dans la salle qui l'ont montré aussi, c'est que finalement, on en arrive à un point où des enfants qui redoublent dans une classe auraient pu être promis dans une autre. Et ça aussi, c'est interpellant. En définitive, nous, il nous semblait que pour comprendre les décisions du redoublement, c'était véritablement tout le fonctionnement évaluatif des enseignants qu'il importait d'étudier. Et donc, comme l'a dit Olivier, ça nous a amené à une seconde étude, c'est-à-dire qu'on a proposé un projet fonds national de recherche en Suisse que l'on a obtenu et qui a eu lieu entre 2010 et 2014, dans lequel, en fait, on a essayé de voir pourquoi les enseignants décidaient du redoublement. Donc, ça, c'était ce que je vais vous présenter maintenant. Pour cela, on s'est basé sur les revues de la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on est véritablement inscrit, nous, dans un courant de la psychologie éducationnelle, les croyances des enseignants, ce qu'on traduit en anglais par les « teachers' beliefs ». Donc, du côté anglo-saxon, dès 1990, mais vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été menées sur les croyances des enseignants, entre autres sur les bienfaits du redoublement. Et puis aussi, du côté francophone, il y a toute une série d'études qui ont aussi investigué ces croyances à propos du redoublement. Sur cette base, et donc nous, notre postulat de base, c'est de penser que tout système éducatif et finalement tout enseignant a des présupposés psychologiques, c'est-à-dire des conceptions psychologiques qui vont l'amener à prendre des décisions de redoublement ou non, en fonction des contextes dans lesquels il se trouve. Alors, de ces études, dans un premier article que nous avons soumis avec Fanny Boretta, qui est la doctorante qui a travaillé à ce Fonds national, on a dégagé 5 dimensions. C'est-à-dire que finalement, si on essaye de comprendre pourquoi les enseignants croient au bienfait du redoublement, et ces résultats-là, contrairement à ce qu'Olivier a dit, ce ne sont pas des résultats strictement genevois. C'est-à-dire qu'on a des enseignants genevois, on a des enseignants français et on a des enseignants belges. Donc on a fait passer ces questionnaires dans ces 3 pays. Alors sur la France, on a un échantillon assez petit et qui correspond plutôt à un département, enfin à des enseignants d'un département qui correspond à l'Auvergne. Alors, donc dans ces 5 dimensions qu'on a dégagées, première dimension qu'on dégage, c'est que finalement, on peut retrouver dans la croyance au bienfait des redoublements, des enseignants qui sont orientés plutôt sur une régulation cognitive du redoublement, c'est-à-dire, en gros, c'est ceux qui disent « mais le redoublement, c'est une seconde chance pour les apprentissages des élèves ». Une deuxième dimension, c'est une régulation de l'ordre scolaire, ce qui rejoint un petit peu ce que Hugues Dralands présentera un petit peu aussi sur le point de vue plus sociologique et les fonctions latentes du redoublement, mais c'est finalement cette idée que le redoublement, ça sert de menace, et c'est ce qui motive, et donc quelque part, ça, cet intérêt-là de garder ce redoublement. Troisième dimension, c'est la conception par rapport aux résultats scolaires, c'est-à-dire qu'on a des enseignants qui vont dire, en fait, finalement, ben, le redoublement, c'est pas suffisant. Les points sont suffisants, pardon, les notes sont suffisantes pour décider du redoublement, donc sans tenir compte d'autres éléments. Quatrième élément, ben, les effets socio-affectifs, c'est-à-dire qu'on va avoir des enseignants qui vont nier le fait que ça nuit à l'estime de soi. Et enfin, cinquième élément, ben, le fait que les enseignants vont dire, certains enseignants vont dire, ben, finalement, le redoublement, ça sert pour la maturation ou quand les élèves ont des problèmes de familiaux. À cela, on peut associer quelque chose d'important dans la littérature anglo-saxonne, c'est la connaissance que les enseignants ont des recherches sur les effets du redoublement. Et on va voir directement après que ça a une influence sur les premières dimensions, c'est-à-dire que plus ils ont une bonne connaissance des recherches sur les effets du redoublement, moins ils ont tendance, sur ces 5 dimensions, à aller dans une croyance au bienfait du redoublement. Et puis d'autres catégories de croyances concernant l'intelligence, l'apprentissage, l'évaluation et la justice scolaire. Alors je vais vite expliquer ces 4 dimensions, pourquoi on les a choisies. La première, concernant l'intelligence, c'est l'idée qu'un enseignant qui a une idée que l'intelligence est fixe ne va pas avoir la même décision que un enseignant pour qui l'intelligence est malléable. C'est-à-dire qu'un enseignant pour qui, finalement, ben, l'enfant, de toute façon, il ne peut pas devenir plus intelligent que ce qu'il est, il va plus être enclin à prendre des décisions de redoublement. Sur les apprentissages, on parle de conception de l'apprentissage spiralaire, c'est-à-dire est-ce que l'apprentissage, c'est quelque chose avec une forme de boucle, c'est-à-dire des rechutes, des retours, des baisses et puis des apprentissages, ou bien est-ce que c'est quelque chose de linéaire ? Évidemment, celui qui pense que c'est linéaire, lui, va avoir une conception que ben, si, à un certain moment, on n'est plus sur la ligne, eh bien, il faut redoubler pour rattraper la ligne. Alors, celui qui a une conception spiralaire va avoir plutôt une idée inverse. Au niveau de l'évaluation, même chose. On a des enseignants qui ont une conception normative, c'est-à-dire l'évaluation, c'est fait pour classer les élèves. Et donc, quand je classe les élèves, j'ai un risque d'effet posthumus qui fait que j'ai des bons et des mauvais, et donc c'est les mauvais que je vais faire redoubler. À l'inverse, quand j'ai une évaluation critériée ou formative. Et enfin, la conception de la justice scolaire, c'est-à-dire que là, on a 3 types de justice que l'on peut représenter. C'est quelque part, si on regarde un petit peu, une première idée, c'est une égalité de traitement, c'est-à-dire, moi j'ai la conception que, en tant qu'enseignant, ce que je dois faire, c'est donner à tous la même chose, et je m'arrête là. Ou je peux avoir une conception qu'on appelle d'égalité des chances ou des dons, c'est-à-dire, il y en a qui sont faits pour l'école, et malheureusement, il y en a qui ne sont pas faits pour l'école, et donc, ben, il y en a qui vont être orientés ailleurs, parce qu'ils ne sont pas bons en maths, ils ne sont pas bons en français, etc. Et puis, il y a une dernière égalité, qui est l'égalité des acquis, c'est les enseignants qui pensent que, finalement, l'école est là pour amener au moins, dans l'enseignement primaire et au début du secondaire, amener tous les élèves à un socle commun et donc que tout le monde doit atteindre les mêmes objectifs. Là, pas de souci pour vous dire quel type d'enseignant risque de faire plus redoubler que d'autres. Ça va dans le sens d'études qui ont été faites du côté anglo-saxon, mais je ne vais pas revenir. Et je vais passer directement aux deux constats majeurs qui ressortent. Le premier, un lien important apparaît entre les croyances à propos du redoublement et la connaissance des recherches sur ses effets. La deuxième chose, c'est que par contre, concernant les conceptions psychopédagogiques que je viens de citer, là, on a pour le moment des résultats qui montrent que ça affecte peu ces croyances. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Premièrement, concernant les liens croyances à propos du redoublement et connaissance des recherches sur ses effets. Plusieurs de nos travaux ont montré, premièrement, que les enseignants informés des résultats de recherche sur les effets du redoublement prennent de la distance par rapport à leurs croyances communes. Donc, c'est bénéfique pour les enseignants de connaître véritablement les résultats de recherche. Et puis, la connaissance des recherches sur le redoublement fait, par exemple, davantage reculer le déni des méfaits socio-affectifs, dont on a parlé, entre autres, ce matin avec Olivier Costefroy. Et donc, on voit bien que d'avoir les connaissances des recherches sur ce résultat amène les enseignants à prendre conscience de ces méfaits socio-affectifs. J'ai dit que, par contre, le lien entre conception psychopédagogique des enseignants et croyance au bienfait du redoublement, là, c'était plus problématique, même si... Premièrement, parce qu'on voit bien qu'il est possible de développer certaines croyances relatives à l'efficacité du redoublement, indépendamment d'autres croyances quant à ses méfaits potentiels. Et donc là, en fait, on peut se poser la question sur le lien entre conception psychopédagogique et les croyances au bienfait du redoublement. La première chose qu'on se pose comme question, c'est véritablement, puisque là on a quand même quelques difficultés encore actuellement, mais on y travaille, c'est pour ça qu'on fait de la recherche, c'est véritablement comment sont structurées les croyances. Autrement dit, quelles sont les croyances qui, en fait, ont de l'impact sur d'autres croyances pour arriver à modifier les systèmes de croyances des enseignants. Deuxième chose aussi, on a des questions méthodologiques. Les questions méthodologiques, la première, c'est peut-être qu'on a procédé par questionnaire, donc les enseignants répondent dans des tendances générales par rapport au redoublement, et quand on fait des entretiens, là, on voit bien qu'il y a une distinction entre conception générale sur le redoublement et puis réalité du terrain quand on a des éléments-là. Mais on a aussi une deuxième hypothèse par rapport au choix de nos items qui renvoient à la littérature scientifique et qui ne sont peut-être pas celles qui est vraiment compréhensible par les gens du terrain. Et enfin, une troisième hypothèse qui rejoint finalement une intervention qui sera faite par Hugues demain, c'est l'idée que peut-être qu'il faudrait qu'on combine notre point de vue psychologie éducationnelle sur les croyances des enseignants et leur conception pédagogique avec un point de vue sociologique sur les fonctions latentes du redoublement. Parce que peut-être que l'explication se trouve à la croisée des deux. En tout cas, c'est une de nos hypothèses fortes sur laquelle on risque de travailler très prochainement avec Hugues. Je termine juste pour vous dire finalement qu'attend-on, que propose-t-on dans les lignes d'action ? Ben, premièrement, et ça a été déjà dit, bien informer tous les enseignants des résultats de recherche sur le redoublement, bien informer les futurs enseignants, parce qu'on a vu que ça avait de l'influence sur cette dimension, mais veiller aussi à la formation des formateurs d'enseignants, parce qu'on a vu qu'il y avait des formateurs d'enseignants qui avaient des discours contradictoires sur le redoublement, et pas toujours proches de ce que la littérature actuelle proposait, et avoir conscience de la nécessité en parallèle d'avoir des changements d'ordre institutionnel, c'est ce que vous proposez ici à travers les alternatives, mais aussi de travailler, et ça rejoint ce que Arlette disait, en parallèle sur le système des croyances des autres membres du monde éducatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les enseignants à convaincre, mais il y a aussi le monde civil, c'est-à-dire les parents, les élèves et les directions d'école. Si Olivier me laisse juste une minute encore. Une minute. Je vais juste terminer. Je voudrais dire que, premièrement, si on regarde... il faut faire juste attention à l'illusion du changement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, on a des baisses mécaniques du redoublement qui sont prises par des décisions d'empêcher des redoublements. Ça a été fait en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça a été fait dans le canton de Genève, ça a été fait aussi dans le Luxembourg, j'en parlais avec Jos Bertem ce matin. Mais en fait, souvent, si on n'a que des décisions de ce type-là, on risque d'avoir un effet boomerang par la suite. Donc on voit que ça se reporte, le redoublement se reporte ultérieurement. Deuxième chose que je voulais dire, c'est attention à la mise aussi en place des alternatives. Je pensais par exemple à la classe multi-âge. La classe multi-âge, quand on interroge les enseignants, ben là aussi, en fait, vous avez des enseignants qui conçoivent la classe multi-âge comme une difficulté. Parce que, en fait, pour eux, c'est deux enseignements scindés, et donc ils doivent faire deux enseignements en même temps. Et ceux-là font redoubler parfois plus que s'ils n'avaient qu'une seule année. Par contre, les enseignants qui ont véritablement compris la classe multi-âge comme étant des classes dans lesquelles il y a interpénétration au niveau des élèves, ceux-là font moins redoubler que les autres. Et enfin, dernier point, ben, on parlait aussi de la mise en place des cycles, et moi je dirais on parlait des cycles, et puis on parlait des alternatives, et puis je voyais que en fait, on propose en fait, des suivis individualisés, personnalisés. Mais là, c'est la même chose. Il faut faire attention et se poser la question de savoir si certaines alternatives n'amènent pas des effets pervers, c'est-à-dire qu'ils déconstruisent d'autres éléments qui sont intéressants, par exemple cette notion de cycle. Comme ça a été dit juste avant, la notion de cycle, l'idée c'était de laisser du temps dans les apprentissages. Si maintenant on revient à des projets individualisés, annualisés, eh bien on revient à une conception hiérarchique. Voilà, je vous remercie. J'ai été vite parce que d'habitude je parle beaucoup plus. Mais là, je n'avais pas le temps.
Merci. Bravo le jeu.